le texte qui nous est proposé par Jean-Paul Villemier pour la méditation qu'il va nous présenter se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous lirons tout d'abord à partir du verset 16 et jusqu'au verset 20, dans un premier temps. Actes 28, à partir du verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de mes pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » C'était jusqu'au verset 20 tout d'abord, et ensuite nous poursuivons avec le verset, à partir du verset 30, nous lirons le verset 30 et le verset 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Soyons attentifs à la lecture de sa parole et au message qui va nous être adressé maintenant par Jean-Paul.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Les prévisions de la météo restent toujours quelque chose qui intéresse pas mal de gens. Et vous avez remarqué que, généralement, à la fin du bulletin télévisé de la météo, on rappelle le prénom des personnes qui seront fêtées le lendemain. On ne nous en donne pas toujours la signification, mais c'est intéressant de voir que, chaque jour, vous avez la possibilité de fêter une personne différente. Eh bien, il fut une époque où les prénoms que l'on donnait aux enfants avaient une signification. Et très souvent, cette signification semblait correspondre au caractère de la personne. Les noms bibliques, par exemple, ont presque tous une signification bien adaptée aux personnes qui les portent. Encore aujourd'hui, certains parents aiment bien choisir un prénom biblique. D'autres préfèrent choisir un prénom plus moderne. Et il nous arrive parfois d'entendre pour la première fois tel ou tel prénom qui vient d'on ne sait où, tellement on a de la peine à le prononcer ou même parfois à l'orthographier, n'est-il pas vrai? Eh bien, nous trouvons dans le Nouveau Testament un prénom intéressant. Ce prénom est mentionné 2 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un prénom très courant, d'ailleurs je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, quelques semaines en prison. Il s'agit de Théophile. Sa signification, vous la connaissez très bien, je la rappelle simplement. Théophile signifie « ami de Dieu ». Alors, où est-il mentionné? Il est mentionné, donc, comme je le disais 2 fois, au début de l'évangile de Luc et également au début des Actes des Apôtres. C'est vrai que, malgré toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé grand-chose à son sujet. Mais, chose étonnante, ces 2 livres lui sont particulièrement dédiés, évangile de Luc et Actes des Apôtres. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles Théophile est mentionné par Luc, mais il est possible que Théophile ait collaboré, ait aidé à la recherche des informations sur la vie et les ministères du Christ que nous trouvons à travers l'évangile de Luc et à travers également le livre des Actes des Apôtres. Mais en réfléchissant un peu à ce prénom Théophile et à sa signification, on se rend compte que cette expression « ami de Dieu » peut en fait concerner d'autres personnes. Abraham, par exemple, a été appelé l'ami de Dieu. On se rappelle des circonstances alors qu'un jour, Abraham conversait avec Dieu, nous dit la Genèse. Et Abraham de dire à Dieu, mais en fait, je m'en vais, mais sans héritier. La seule personne dans ma maison qui pourra devenir mon héritier sera mon serviteur, Eliezer. Et Dieu de lui répondre, mais en fait, tu sais, Abraham, tu auras véritablement un héritier qui sortira de tes entrailles. Ce sera lui véritablement ton véritable héritier. Et Dieu va l'inviter à regarder le ciel et lui dit, eh bien, compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et le texte nous dit que Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et ce n'est pas dans la Genèse qu'il est précisé que Abraham fut appelé ami de Dieu, mais c'est dans l'épître de Jacques. En effet, Jacques, en relation avec cette expérience d'Abraham, va ajouter qu'Abraham, véritablement, fut appelé ami de Dieu. Abraham, nous dit le texte, eut confiance en l'Éternel. Alors cette expression « ami de Dieu » ne pourrait-on peut-être pas l'élargir et dire que, en fait, tous ceux qui croient ou qui placent leur confiance en Dieu pourraient être appelés également amis de Dieu. On pourrait dire peut-être que Luc s'adressait à tous les théophiles qui, en fait, sont les croyants qui sont appelés à parler du Christ et de la bonne nouvelle. En effet, dans les Actes est raconté comment l'Évangile est parti de Jérusalem pour arriver en Europe. Et c'est un grand tableau, en fait, des 30 premières années de l'histoire de l'Église qui est présenté. Et on y découvre, entre autres, les nombreuses difficultés de Paul, à cause même de sa prédication de l'Évangile. Prédication de l'Évangile, d'ailleurs, qui va enfin arriver à Rome. Oui, Rome, ville qui fait parler d'elle particulièrement en ce moment. Tous les yeux seront bientôt tournés vers cette ville. Beaucoup attendront avec beaucoup d'impatience de voir la fumée blanche sortir du lieu du conclave. Oui, Rome, ville qui a fait rêver plus d'une personne. Ville habitée par des gens venus un peu de partout. Et Paul souhaitait lui aussi se rendre à Rome, mais certainement pas par simple curiosité. En effet, il arrive à Rome dans des conditions un peu spéciales. Alors qu'il se trouve dans le temple à Jérusalem vers l'année 58, Paul est accusé de parler contre le peuple, de parler contre la loi, contre le temple. Et c'est alors qu'on se saisit de lui et qu'on le traîne hors du temple. On cherche à le tuer. Et heureusement, la police romaine intervient et met Paul en lieu sûr. Il va comparaître ensuite devant le Sanhédrin. Et de Jérusalem, après différentes péripéties, il sera conduit sous bonne escorte à Césarée, où il restera en détention pendant 2 ans. Comme les Juifs continuent de l'accuser, toujours pour les mêmes motifs, soi-disant contre la loi, contre le temple, contre le peuple, alors qu'en réalité il n'en était rien, Paul finit par demander de comparaître devant César. Et on va répondre favorablement à sa demande. Et nous savons qu'il sera transféré donc de Césarée à Rome. Et on se souvient des péripéties de ce voyage, alors que Paul est accompagné d'autres détenus de droit commun. Il est fort probable d'ailleurs que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, fait partie du voyage. Et arrivé à Rome, Paul demeure prisonnier. Il jouit, il est vrai, d'une relative liberté, mais il est tout de même assigné à résidence et il ne peut donc plus prêcher comme il en avait l'habitude, que ce soit dans les carrefours ou sur les places publiques, ni dans les synagogues, comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Mais malgré tout, on vient auprès de lui pour l'entendre parler de l'Évangile. Même les soldats qui le gardent vont certainement bénéficier, peut-être malgré eux, de son témoignage. C'est intéressant de voir comment Dieu utilise les circonstances pour la propagation de l'Évangile. Nous avons différents exemples à travers les siècles où l'être humain a tenté d'empêcher l'Évangile de progresser. L'histoire nous rappelle où de multiples exemplaires de la Bible ont été brûlés et parfois ces auteurs ont tenté de l'éliminer totalement, voire définitivement. Dans d'autres circonstances, des hommes ont pris des risques en traversant certaines frontières avec des Bibles dans leurs bagages et ont vu d'une manière extraordinaire, là encore, le miracle de la protection divine. Nous savons également que de nombreux croyants ont accepté de donner leur vie plutôt que d'obéir au régime en place. Parmi ces croyants se trouve, par exemple, William Tyndale, qui a vécu à la fin du 15e et du début du 16e siècle. Cet homme, qui était d'origine anglaise, passionné qu'il était par la diffusion de la Bible, lui qui pensait qu'il était possible de la traduire et de la faire bénéficier à tous ses concitoyens, eh bien décide justement de traduire le Nouveau Testament dans sa langue maternelle. Il souhaitait vraiment que chaque personne de son pays puisse connaître l'Écriture. Malheureusement, à cette époque, il va rencontrer là encore des adversaires de la Bible. Et on va lui tendre un piège, mettre la main sur lui, l'emprisonner. Mais malgré tout, il désire toujours réaliser son projet. Et il va continuer dans son cachot à travailler sur sa traduction. Il trouve les moyens d'obtenir un original pour pouvoir justement arriver à traduire cette Bible en anglais. Malheureusement, il sera condamné, étranglé et brûlé en 1536. Mais chose extraordinaire, malgré sa disparition, son souhait de voir la Bible comme connue par la population d'Angleterre va se réaliser. En effet, les amis de William Tyndale vont récupérer cette traduction que Tyndale avait commencé en prison, vont la compléter et la faire imprimer. Et le roi Henri VIII, un peu plus tard, va autoriser à son peuple de lire la Bible. Oui, cette Bible de Tyndale sera diffusée dans toute l'Angleterre. Oui, la parole peut avoir des opposants, mais elle finit toujours par se faire entendre. Comme nous l'avons vu déjà à l'époque de Paul, alors qu'il est emprisonné à Rome, la parole de Dieu reste libre. Bien que lui, physiquement, soit entravé, la prédication de l'Évangile reste sans entrave. Mais en lisant le livre des Actes, et particulièrement la fin de ce livre, il y a quelque chose qui peut surprendre, qui me surprend, qui vous surprend peut-être. On y reviendra tout à l'heure. On connaît le soin qu'a pris Luc pour la rédaction en particulier de son évangile. En effet, en s'adressant à Théophile, je vous invite à reprendre peut-être le texte, donc Luc au chapitre 1er, nous lirons les premiers versets de cet évangile, Luc chapitre 1er, à partir du verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi vous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins des oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçu. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. On se rend compte que Luc a pris un soin particulier pour rédiger son évangile. On se rend compte que Luc s'est probablement entouré d'autres personnes pour avoir des informations précises sur la vie, le ministère de Jésus, bien entendu toujours guidé par l'Esprit. Et alors, on peut se dire que Luc a eu la même diligence, probablement pour rédiger son deuxième livre, celui des Actes des Apôtres, bien sûr toujours guidé par l'Esprit. Mais alors, une question se pose. Que s'est-il donc passé à la fin de ce livre ? On a l'impression que le récit ne va pas jusqu'au bout, que sa rédaction reste inachevée. Je reprends le texte que Bernard nous a lu tout à l'heure, les deux derniers versets de ce livre des Actes que nous lisons. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Point. La fin de ce livre, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, laisse un peu le lecteur sur sa faim. Alors, on pourrait se poser différentes questions. Luc aurait-il été empêché de continuer sa rédaction d'une façon ou d'une autre ? Aurait-il perdu un manuscrit ? Aurait-il oublié ou égaré un document ? Aurait-il été cambriolé ? Aurait-il été victime d'un acte terroriste ? Peut-être à ce moment-là, peut-être pas, mais qui sait ? Luc écrit bien que Paul est arrivé à Rome, mais après. Que s'est-il passé ? Qu'est-il devenu ? Est-il comparu devant l'empereur ? Qu'en est-il de l'issue du procès dans lequel Paul se trouvait impliqué depuis son arrestation à Jérusalem ? Qu'en est-il de son appel à César, qui avait été la cause de son voyage à Rome ? C'est vrai qu'il y a quelques indications dans certaines épîtres de Paul. Mais pourquoi ce livre se termine sur une sorte de point d'interrogation quant au devenir de Paul ? On a comme l'impression que ce livre se termine sans se terminer vraiment. Il est vrai que le livre des Actes n'est pas une biographie de Paul, ni de Pierre d'ailleurs, mais on aurait peut-être bien voulu que la suite de sa vie soit mentionné, n'est-il pas vrai ? Comme la vie de Jésus, d'ailleurs, est mentionnée en détail dans l'évangile de Luc. En réfléchissant à cela, c'est intéressant de considérer la façon dont se termine ce livre, même si cela peut surprendre. Car en fait, au lieu d'une conclusion à laquelle on peut s'attendre, Ne pourrions-nous pas y voir peut-être un programme pour tous les croyants? Est-ce que Luc, en terminant son livre de cette manière, ne veut-il pas attirer l'attention de ses lecteurs, non pas sur Paul ou sur Pierre, qui sont souvent mentionnés dans ce livre? Nous savons que la première partie des Actes des Apôtres est particulièrement consacrée à Pierre, que la deuxième, 60% environ, sont consacrés à Paul. Mais en fait, le véritable héros mentionné dans les Actes des Apôtres, ce n'est peut-être ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, qui a joué aussi un rôle important dans la première Église, ni Étienne, qui lui aussi a donné sa vie pour le Seigneur. Le véritable héros du livre des Actes, me semble-t-il, héros dont Luc ne cesse de parler, c'est la parole, la bonne nouvelle de l'Évangile, le Christ lui-même. Oui, c'est la proclamation du Christ qui est au centre même des différentes expériences rapportées dans ce livre des Actes. Et ne pourrait-on pas voir la fin de ce livre comme une ouverture à un chemin qui doit continuer malgré les obstacles? Oui, cette histoire de la première Église n'est pas encore terminée. L'histoire de l'Église doit se poursuivre encore un certain temps. Nul ne sait pour combien de temps. Mais du temps de Paul, l'Évangile a atteint le cœur du monde connu de l'époque. Mais cette bonne nouvelle doit se répandre partout selon la prophétie, le signe avant-coureur du retour du Christ. Cette promesse que nous connaissons bien, que je rappelle ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À travers les siècles, et aujourd'hui encore, les croyants ne font rien d'autre que de continuer l'histoire des Actes des Apôtres, l'histoire de Paul et toutes les histoires de vie qui font l'histoire de l'Église. C'est comme si la fin de ce livre disait aux croyants de chaque époque de poursuivre la tâche. Oui, les croyants sont appelés à poursuivre cette démarche, même si le contexte n'est pas toujours facile, même si on a l'impression de pêcher à la ligne dans nos contrées, tout au moins, alors que dans d'autres régions du monde, on a l'impression qu'ils pêchent au filet. Oui, les croyants du XXIe siècle sont toujours et encore les relais de ces témoins d'il y a 20 siècles. Paul recevait juifs, chrétiens ou païens à Rome. Qu'importe leur origine ou leur arrière-plan religieux, ils ne cessaient de parler. De qui parlait-il? Du véritable héros qui traverse comme un fil rouge tout le livre des Actes, la personne du Christ lui-même. Oui, magnifique témoignage que Paul laisse et que je cite à nouveau. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous tous, peut-être, qui sommes les théophiles modernes, eh bien, prions le Seigneur afin que il puisse nous aider encore à poursuivre cette tâche jusqu'à son retour. C'est ma prière. Amen.